C'est
une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Ici, soutient la musique locale.
En condensé, on a tout partagé, sans même croire que l'on se plairait. Le corps n'y est pas, mais l'esprit.
Vous écoutez Baiser Doré, la chanson de Sonia Kada.
J'y pense encore à chaque instant, à chaque automne, à chaque printemps. J'ai beau courir contre le temps, quitte-moi comme tes baisers dorés.
Sonia est née à Aubenas. Elle a grandi dans les Cévennes d'Ardèche. Après avoir été choriste pour les artistes des années 80, elle poursuit sa carrière avec Baiser Doré. Et Baiser Doré, un coup de cœur, ici Drôme Ardèche.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Picardie.
Ils sont jeunes et ont un avis sur tout. Ici Picardie donne la parole au Tio Picard. Annick Bonhomme.
Qu'aimeriez-vous planter dans votre jardin ?
Dans mon jardin, j'aimerais bien faire un potager avec, par exemple, des tomates, de la salade, des melons, etc. pour pouvoir après les récolter et faire des petites salades. Et pour l'été, ça serait bien.
Moi, c'est pour les planter à manger illimité.
Et moi, je veux planter des fraises, des fleurs, par exemple, et aussi des carottes et plein d'autres choses, et des salades aussi. Plein.
Des framboises, des myrtilles. Parce que moi, j'aime les fraises, framboises, myrtilles, parce que c'est incroyable.
Moi, ce que je voudrais planter, c'est de la pastèque. Tout ce qu'il y a de nécessaire pour vivre, pour manger.
Et tu manges des fruits et des légumes ?
C'est presque mes aliments préférés. J'adore les légumes, les tomates, concombres, courgettes, carottes.
Oui, beaucoup de légumes et aussi des arbres comme des plantes, des tulipes, des roses, etc. Mais oui, les légumes, c'est trop bon, aussi les fruits.
C'est vrai, tu manges des légumes ?
Ah oui, j'en mange beaucoup. Je me fais plein de salades. Maman, elle m'a appris à tout faire. Je mets dans un petit bol, je mets de la salade avec de la vinaigrette, des tomates, je coupe des avocats. Quelquefois, je mets des fruits aussi pour donner un petit peu de sucré.
Moi, j'aime pas trop la salade et les avocats. C'est les seuls fruits et légumes que j'aime pas trop.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Touraine.
Quand j'ai téléphoné à mes enfants, ils me font « Oui, enfin, t'as gagné, mais t'es pas dans le fauteuil rouge. » Je dis « Si, je suis dans le fauteuil rouge. »
Ici Touraine, les gens d'ici.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Desmoulières. J'habite Savonnières et je suis une fan de jeux télé. Je suis professeure de français dans un lycée tourangeau.
Alors, j'ai toujours aimé regarder les jeux télé, notamment Nagui.
Bonjour.
C'était quand même, je pense, mon jeu de prédilection. Et autrement, je regardais Pyramide avec Patrice Lafont. J'aimais beaucoup.
Ne changeons rien à cette formule magique et jouons tout de suite à Pyramide.
En général, des jeux de culture générale et des jeux de lettres. J'étais une fan du Trivial Pursuit. L'édition, la première édition, je la connaissais quasiment par cœur. Donc oui, j'ai toujours aimé ça.
Ça a été quoi le déclic pour vous dire un jour, je vais m'inscrire? Et surtout, comment ça se passe? Comment on se porte candidat?
C'est un malentendu. En fait, je venais d'être opérée et j'ai fait un test sans comprendre que j'étais en train de faire le test de culture générale pour être inscrite à Tout le monde veut prendre sa place. Je suis même pas sûre de vouloir y aller parce que je me disais je vais être trop stressée. Et je crois que j'ai été rappelée après, 3 semaines après. Et donc, je suis passée pour la première fois avec Nagui où j'ai été challenger. Et en fait, ils m'ont rappelé 2 ans après. Est-ce que ça vous branche? Et mon beau-fils, en fait, il se souvenait du beau cadeau qu'on avait eu, à savoir un séjour au ski. Allez, Isabelle, tu nous regagnes un séjour au ski. Travailler, mais peut-être 15 heures pour réviser. J'ai bachoté, j'en avais gratté des pages et des pages.
Qu'est-ce que ça a fait de vous voir à la télé?
On est hyper étonnés, surtout qu'avec le stress, ça déforme un tout petit peu les traits. Il vous maquille énormément, donc ça lisse la peau, mais de fou.
Alors oui, un petit peu de stress, forcément, mais avec de la discipline, de la stratégie et une bonne étoile, Isabelle a quand même décroché de sacrés cadeaux.
Un super ordi, 10 800 euros. Ils envoient bel et bien, il faut bien le préciser. Après, également, j'ai gagné à tout le monde à son mot à dire. C'est il y a moins de 6 mois et j'ai gagné 12 500 euros.
Et les plateaux télé lui ont donné envie d'écrire
un livre.
En fait, moi, j'ai regardé en tant que spectatrice, mais je n'ai pas été la seule. Et c'est là que j'ai découvert des personnes qu'on peut appeler des haters, des détracteurs. Et ça a été le point de départ de réfléchir à quelle pouvait être la vie de ces haters, comment ils s'occupaient. Et donc, je leur ai inventé un quotidien.
Ami éditeur, le manuscrit est fini. À vous peut-être de le faire vivre. Isabelle est ouverte aux propositions. Mais avant ça, un conseil.
C'est le sourire, mais le sourire visuellement.
Et écoutez, ça fonctionne. Isabelle a gagné cet été un VTT au Blind Test d'ici Touraine.
Un plaisir à être là et un plaisir à jouer.
Merci, je suis trop contente. Merci, ici Touraine.
Après, quand on gagne, c'est encore mieux.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Périgord.
Si le pantalon fait fureur de nos jours chez les filles comme chez les garçons, qu'en est-il de la braie ? B-R-A-I-E. Son ancêtre, le pantalon de l'Antiquité, qui pouvait être serré au niveau des chevilles, serré ou bouffant au niveau des cuisses. La braie a été inventée par les Gaulois. C'est grâce aux Gaulois que les Romains apprirent à connaître la braie. Le mot s'est répandu après dans toutes les langues romanes avant que le personnage de Pantalone de la Commedia dell'arte, le costume du riche Vénitien qui porte un pantalon, ne fasse sensation et répande le mot pantalon sur tout le territoire français. Enfin, sauf un territoire qui résiste toujours à l'envahisseur, les pays occitans, où le pantalon se dit toujours comme les Gaulois, l'obraio o l'obraso. Ne dit-on pas que ce gouya est toujours débraillé ? Cela vient de la même origine, mal pantalonné, mal fagoté. Tu pouvais pas tourner monta ta braguette, te prese ? Tu ne peux pas remonter ta braguette, je te prie. Même origine. Oups, pardon. Anéadiou.
Ici. Actu locale, musique et bonne humeur.
Cherchez l'étoile, vous qui vivez en rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi.
Leave it.
on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Alsace.
Parce que si le week-end, comme moi, vous entendez votre épouse vous dire « Tu sais quoi, j'ai réfléchi à... » Ou alors « Ah, tu sais ce qu'on pourrait faire ce week-end » ben vous savez que vous allez passer le week-end entier dans des magasins de bricolage, seul, et à vous battre avec la perceuse et l'outillage, seul. Bon, là, il fallait que je rajoute une étagère dans une cloison. Mais bon, j'étais mal réveillé dimanche matin, j'ai percé un peu trop loin. Et maintenant, la cheville est trop enfoncée, ça lotte, ça bouge, c'est une galère, quoi. Alors ma maman, elle m'a regardé galérer, là, pour ressortir la cheville du mur, et elle m'a demandé « Mais pourquoi tu n'utilises pas du scotch ?» Je lui dis, mais maman, mais attends, mais le scotch, c'est pas assez solide pour retirer la tivle du mur. Et là, elle me répond, tu totles, aïe, c'est pour mettre le tivle, la cheville, pas pour l'enlever. Bah oui, parce qu'elle m'a montré que pour ne pas percer plus loin qu'il ne faut, vous mesurez la longueur voulue, ou vous prenez la longueur de votre cheville et vous la mettez jusqu'au bout du forêt. Puis vous y mettez un scotch qui remonte bien un petit peu.
Ah oui,
et quand vous percez, en fait, vous voyez exactement là où il faut que vous vous arrêtiez pour que la cheville n'aille pas trop loin dans la cloison. Et comme ça, ça tient bien. Merci ma maman, mais j'aurais aimé avoir l'info avant de percer.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
J'avoue, j'ai un faible pour les Vosges discrètes. Ce ne sont pas forcément les Vosges célèbres, hein. Côté de Gérardmer, de la Bresse. Ce ne sont pas les Vosges tranquilles, comme j'aime les appeler, du côté de Rambervillers. Ce ne sont pas les Vosges historiques, du côté de Senones ou de Moyen-Moutier, ni même la plaine des Vosges, à Vittel, Neufchâteau, Contrex et Ville. Non, les Vosges discrètes, ce sont les Vosges, allez, on va dire entre Remiremont et Plombières, entre le Val d'Ajol et le Saint-Mont. Ici, il y a Éloy, Vecoux, Saint-Amé, Girmont-Val d'Ajol, et c'est d'une grande beauté. Entre Forêt-Fournie, où le sapin commence à abdiquer sa royauté vosgienne au profit des feuillus, on trouve des chênes, des hêtres qui font aussi leur place et leurs longues branches font jouer la lumière sur la route, du côté de la feuillée Dorothée par exemple, avant de découvrir plus loin une carte postale, le Val d'Ajol et son église. Il y a ici le Saint-Mont, lieu mythique dont on dit que les Gaulois avaient fait une forteresse face aux Romains avant que Saint-Romaric n'en fasse une forteresse de la foi. On sent au Saint-Mont, comme à Sion d'ailleurs, de ces forces qui viennent du plus profond de la terre et de l'histoire, qui font vibrer l'âme avant de partir je ne sais où dans les nuées du ciel. Ici, dans les Vosges secrètes, il y a l'élégance toute aristocratique de Remiremont, la ville des femmes, des chanoinesses, ces dames abbesses qui ont tellement imprimé leur marque, notamment l'envie de beauté qu'on retrouve non seulement autour de l'église Saint-Pierre, dans le quartier des chanoinesses, mais aussi partout dans la ville. Ben oui, à Remiremont, les monuments ne sont pas juste utiles, on sent qu'ils ont été faits pour être beaux. Ici, c'est l'antique beauté de Plombières. Plombières, autour de son clocher pointu, dans sa vallée d'histoire, qui se souvient avoir vu passer Voltaire, Beaumarchais, Rabelais, et qui se sent prête à soigner ou même apaiser juste, qui voudra s'offrir une bulle où on est ici tout à soi. Juste ça, être à soi, c'est si rare. Les Vosges discrètes, c'est un joli chemin découvert au-dessus de Vecoux ou dans la forêt près de Saint-Amé. C'est un rayon de soleil au-dessus de Éloy ou une bonne table au Val d'Ajol. Un moment vosgien est tellement fin bien que je vous souhaite de le découvrir ou d'y revenir.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Occitanie.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit.
Vous chantez ça, Michel Rivérol, parce que vous chantiez des chansons polissonnes sur les scènes il y a quelques années.
Pendant très longtemps, effectivement, avec un pianiste, c'était un spectacle piano-voix. Et j'ai par ailleurs payé mes études en chantant et j'étais CPE.
Ah oui, voilà, parce que ça, on va en parler. Vous étiez CPE à quel endroit ?
Au collège de l'Onaguet, puis quand un poste s'est libéré au lycée Saint-Sernin, je l'ai demandé, j'ai eu la chance de l'avoir. Et d'y rencontrer des élèves en option musique.
Et deux garçons célèbres.
Big Flo et Oli, effectivement, j'ai eu cette chance. classe pendant mes 17 années passées dans ce lycée. Oui.
Vous faisiez tampon parfois, c'est-à-dire ?
Un enseignant, il doit faire passer un programme et quand ses élèves sont trop souvent absents, là, ça passe plus du tout. Et je me souviens de moments d'échanges avec un professeur de mathématiques qui me disait « Non, mais là, ça suffit, il faut les coller maintenant, il faut les punir, moi, j'en peux plus, ils sont jamais là. » Mais je t'assure qu'ils sont malades, je me disais. En fait, je savais qu'ils faisaient une première partie à l'Olympia, donc bon, ils étaient déjà très vite, ils ont atteint une sacrée notoriété et mener les choses de front devenait difficile à ce moment-là.
Et vous aviez des contacts avec la maman aussi?
Ah oui, ben la maman aussi. La maman voulait qu'ils aient le bac. Et elle a réussi. Elle disait, sans le bac, non, je les lâche pas. Bon, après, elle était bien obligée de lâcher quand même, une fois qu'ils sont majeurs. Elle aussi, elle s'est retrouvée dans mon bureau à examiner les absences. Et vraiment, ils peuvent remercier Patricia, leur maman, qui m'a dit déjà, mais voyons, ça, c'est pas justifié, ça, c'est pas justifié, ça, non, là, je compte sur vous, vous les punissez, c'est pas possible. Bon. Et elle veillait au grain et elle avait bien raison.
Alors, il y avait de la complicité avec eux, au point d'ailleurs qu'ils vous ont demandé de tourner dans un clip.
Ils m'ont demandé de tourner dans un clip qui s'appelle Pourquoi pas nous. Et pour dire deux malheureuses phrases, il a fallu, alors je pensais moi, du premier coup avec mon expérience, eh bien, pas du tout. Il a fallu recommencer. Et à un moment, c'est Florian qui me regarde complètement désappointé. Il me dit, mais vous l'entendez pas, madame? Et là, c'était le renversement, quoi. Habituellement, c'est plus les adultes qui apportent aux élèves, effectivement. Et là, je les mettais dans l'embarras et je ne comprenais pas ce qui ne collait pas. Enfin, c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée et je la raconte pour la première fois, là. Peut-être que j'avais ça au fond de moi. J'osais pas trop m'en vanter, entre guillemets. Enfin, j'ai fini à la troisième fois, on m'a fait signe que c'était OK, j'ai été applaudi, la scène était dans la boîte, voilà. Mais ils m'ont fait douter de mes capacités.
Ici. M'en aller quand tu me dis reste, c'est pas si facile. Oublier tous ces mots qui m'aident, c'est pas si facile. À tes côtés, tout se disperse, c'est ça qui me fascine. Avoir la force de ceux qui s'aiment, c'est pas si facile.
Un peu de sel, des beaux jours, des grains de sable sur tes joues, des sortilèges, des mots doux. L'été nous lire son plus joli tour, à croire à la magie on s'est perdu. À nouveau on redevient deux inconnus, viens on recommence au tout début Aïe aïe, on se retient chaque fois, aïe aïe. On s'éteint un feu de bois, je sais pas si toi tu y crois ou pas. Aïe aïe, on est tombé si bas, aïe aïe. Pourquoi on se bat, dis-moi, si on s'arrête là.
M'en aller quand tu me dirais, c'est pas si facile. Oublier tous ces mots qui blessent, c'est pas si facile. À tes côtés tout se disperse, c'est ça qui me fascine. Avoir la force de ceux qui s'aiment, c'est pas si facile.
Des heures à sonner, des souvenirs plein la tête quand je vois tes appels. J'ai l'impression qu'on te recule à ton level. Pour moi t'étais la seule. Tu pensais que j'étais bien pour toi. Je m'en veux si je t'ai fait de la peine. Sans toi tout devient tout noir. Mais sans toi la monnaie m'appelle. Tu sais bien que sans toi c'est difficile d'avancer. On s'est mis entre parenthèses. Désolé de préférer m'absenter que de te voir patienter. Si je pouvais je serais dans un transat loin des histoires. En train de trinquer à ta santé. Le cœur en vrac à ces études croire.
M'en aller quand tu me dirais, c'est pas si facile. Oublier tous ces mots qui blessent, c'est pas si facile. À tes côtés tout se disperse, c'est ça qui me fascine. Avoir la force de ceux qui s'aiment, c'est pas si facile. Et encore une fois, j'essaie, mais j'y arrive pas, je sais. Si seulement je pouvais tout réparer en claquant des doigts. Et encore une fois, j'essaie, mais j'y arrive pas, je sais.
Cette fois j'en vois pas tout balader. Tu me dirais, c'est pas si facile. Oublier tous ces mots qui plaisent, c'est pas si facile. À tes côtés tout se disperse et c'est ça qui me fascine. Avoir la force de ceux qui s'aiment, c'est pas si facile.
M'en aller quand tu me dirais, c'est pas si facile. Oublier tous ces mots qui blessent, c'est pas si facile. À tes côtés tout se disperse, c'est ça qui me fascine. Avoir la force de ceux qui s'aiment, c'est pas si facile.
À tes côtés tout se disperse et c'est pas si facile. Avoir la force de ceux qui s'aiment, c'est ça qui me fascine.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici, Berry.
Oh, j'en peux arrêter de beuvracher.
En Berrichon, dans le texte.
Beuvracher, c'est boire des petits canons. Mais à force d'en mettre derrière la cravate, vous pourriez ben avoir le gerlet, puis devenir causant. Puis si vous continuez à beuvrailler, vous serez abreuvagé, plein comme une nœud. Mais quand c'est que vous en avez vos deux pleins patins, le lendemain, il y a le pivert qui vous cogne dans le nez, yo. Ça fait qu'au goûter, vous ne buvez plus que de l'io. Vous faites un repas de bœuf. Les bonnes résolutions de plus toucher à une chopine, oh, ça dure jamais ben longtemps. On retrouve ben vite son avaloir, et puis on se remet en beuvée. Faut dire que chez nous, dans le Berry, j'en clambarras du choix. Châteaumeillant, Mentou, Chancy, Reuilly, Sancerre, Valençay. Sans compter Saint-Marcel et Venem. Comment voulez-vous en que ça que j'arrête de gobloter? Maurice Sandré, dans Plein Communeux, nous décrit son état. Cré bon Dieu? Tchic, ça veut donc dire. V'là que je peux plus rester d'aplomb. Quand que je cause, je raconte des bêtises et j'ai la tête comme un vrai plomb. Je peux plus me tenir sur mes giboles. J'ai comme qui dirait mal aux cheveux. Ah, je crée bien que je suis plein, ma parole. Là oui, je suis plein comme une nœud. Oh, c'est une chose qui est pas naturelle. Où que j'ai ben pu attraper ça? Ah, va m'enduler, ma fumelle, en me voyant dans cet état-là. Ah, pour une fois que je fête la Sainte-Barbe, je peux plus rentrer chez nous, mon Dieu, sans me cramponner à tous les arbres. Ah, ça y est, ben, je suis plein comme une nœud. C'est que pour arroser la bonne cuisine, en que le lieutenant, tous les deux, nous avons bu nos 17 chopines. Du coup, nous voilà plein comme une nœud.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici, héros.
Vous l'avez forcément déjà remarqué en allant de Palavas à Carnon, ce fortin qui trône au milieu de l'étang du Levant. C'est la redoute de Balestras, une tour de guet qui a passé 60 ans emmurée dans un château d'eau.
Au secours des pirates !
Au milieu du XVIIIe siècle, de nombreux pirates barbaresques arpentent notre littoral et détroussent les navires marchands. Et il y a aussi les Anglais qui se prennent pour les maîtres des mers. Fire ! Pour protéger les populations, Louis XV fait construire tout au long des côtes françaises une série de fortins équipés de sémaphores. Lorsqu'un bateau suspect se rapproche dangereusement, on envoie des signaux pour prévenir les gardes-côtes qui envoient alors au canon quelques coups de semonce. Du Gros du Roi jusqu'à Hague, dont construit un réseau de 8 tours de guet, on peut encore voir celle de Frontignan, Marseille, Ancette, au Grand Travers aussi, et donc celle de Palavas. Dès 1743, la redoute de Balestras assure sa fonction protectrice, et ça va durer plus d'un siècle. Autour de ce fortin, peu à peu, des pêcheurs installent leurs cabanes, et c'est tout un village qui finit par prendre forme. En 1906, on installe sur le toit de la tour une citerne, qui va alimenter en eau les fontaines de la commune. Au début du XXe siècle, la station balnéaire, devenue reine des plages, voit ses besoins en eau augmenter. Alors en 1943, la mairie décide de bâtir un véritable château d'eau. Il y a toujours la cuve sur la redoute qui est alors emprisonnée d'un sarcophage de béton. Attendre les années 90 pour la redécouvrir. On détruit le château d'eau pour bâtir à la place le phare de la Méditerranée, 45 mètres avec son restaurant tournant au sommet. Et la redoute, elle, est démontée pierre par pierre par les compagnons du devoir. 300 tonnes de pierres marquées une à une et transportées sur un autre site. Il faudra aussi tailler de nouvelles pierres pour remplacer celles qui sont trop altérées. La ville de Palavas a choisi l'étang du Levant pour reconstruire le fortin à l'identique, dans la même orientation qu'à l'origine. Il trouve au milieu des flamants roses un écrin à sa mesure. La redoute de Balestras abrite depuis le musée Albert Dubout, dessinateur caricaturiste qui a contribué à la réputation de Palavas grâce à ses dessins du célèbre Petit Train. Voilà une bonne occasion d'aller la visiter.
Local, musique et bonne humeur.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. beaucoup de questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi.
De rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Pays d'Auvergne.
Dans la rue Poncillon, il y a un atelier de gravure. Philippe Estrade, à mon avis, ça fait belle lurette qu'il est là, cet homme. On va essayer d'aller faire connaissance. Allez, on va aller dans l'arrière-boutique, discuter avec Philippe Estrade himself. Vous êtes là depuis combien de temps ?
1987.
Le métier de graveur, c'est quoi en fait ?
Alors, je fais des plaques de toubib pour les bancs et des plaques de cercueil quand les toubibs sont mauvais.
Et vous faites aussi les clés pour ouvrir certains cœurs ?
Non, non, malheureusement non. Je fais des clés pour ouvrir les chambres des jeunes filles.
Vous avez des souvenirs de gravures un petit peu spéciales qu'on vous a eu demandé, parce que vous gravez un peu de tout, des plaques, j'imagine.
Alors, j'ai un souvenir, alors ça reste un peu dans le même secteur. Un jour, un monsieur m'a amené une jolie médaille, un bijou, quoi, où il m'a demandé de graver salope. Je lui ai dit que le bijou était beau, que c'était, qu'il fallait pas le faire, quoi. Et il a insisté, je l'ai fait.
Et alors, c'est la fin, là, vous arrêtez votre activité ?
Oui, à la fin de l'année.
Content ou finalement quand même, ça fait un petit pincement au cœur, parce que moi je la vois votre enseigne depuis longtemps. Hein.
Alors ça date des années 50. Mon prédécesseur à qui j'ai racheté le magasin, on s'en départ à la retraite et je passe la main et mon successeur est là, c'est mon fils.
Histoire de transmission encore une fois, votre fils qui du coup allez hop, reprend le flambeau.
Voilà, il me pousse au trou.
C'est difficile d'arrêter du jour au lendemain.
Ouais, faut se réinventer et j'ai encore pas eu l'idée. Je sais pas ce que je vais faire, je vais m'ennuyer.
C'est pas dit.
Je sais pas. C'est compliqué, hein.
Ah, il y a une inquiétude, hein, c'est clair. Oui. Mais rien ne vous empêcherait de continuer.
Si, lui.
On va aller lui dire deux mots.
J'aurais pas travaillé avec mon père, hein, donc il est pareil. Hein.
Oh bah pourquoi pas.
C'est infaisable.
Mais si, j'en connais plein, moi, qui travaillent avec leur père.
Père, c'est toujours un vieux con. Là, la pièce où on est, c'était l'endroit où on cassait la croûte avec les copains. Il y avait donc les photos de mes copains, des quelques bringouilles qui se sont fait là. Il a tout viré.
Ils font plus la bringue, les jeunes ?
Et ben, il a mis des trucs comme ça. Là, c'est plus pareil. Mais mes copains étaient désespérés quand ils ont vu.
Bah, il y a de quoi ?
Ben oui.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Béarn Bigorre.
Bonjour à toutes et tous, Thierry Sagarloïto pour Affaires Classées, le podcast. Nous sommes en juin 1884. Un vieil homme habitant le village souletin d'Escioul est sauvagement assassiné dans une auberge du village voisin de Lannes en Barétous. Qui lui en voulait donc et pourquoi? Réponse dans un instant.
Affaire classée. Un podcast ici.
Au village souletin d'Escioul vivait naguère un certain Joseph Larras. Cet ouvrier d'origine espagnole, âgé de 58 ans, était vaillant, bien que de santé assez faible. Sa sobriété et ses habitudes économes le rendaient, disait-on, à l'abri du besoin. D'origine modeste, Joseph n'hésitait jamais à faire état du fruit de son labeur, des espèces sonnantes et trébuchantes qu'il trimballait fièrement dans sa ceinture. Le soir venu, au troquet du coin, cela devenait même un sujet de plaisanterie. Combien avait-il exactement dans sa poche? 1600, 1800 francs? Nul ne savait vraiment. Nous sommes en 1884 et pour l'époque, ce joli pécule a de quoi susciter l'admiration, la jalousie, voire même aiguiser l'appétit de sujets peu fréquentables. Joseph eut un jour le malheur de prêter une somme d'argent à une certaine Madeleine. L'intéressé était connu dans les environs et pour cause. Elle tenait dans le village de Lannes en Barétous un cabaret où les hommes du canton venaient volontiers s'encanailler lorsqu'ils le pouvaient. Des dames de joie y servaient de l'alcool à volonté avant de faire commerce de leur charme. Ladite Madeleine flaira sans peine le pigeon. Malgré son inconduite notoire, elle put approcher Joseph et le convaincre de lui prêter une petite partie de son bas de laine. Les mois passèrent et le brave ouvrier eut toutes les peines du monde à se faire rembourser. Le 1er juin, il finit par se rendre chez sa débitrice, laquelle, pas gênée pour deux sous, le reçut très amicalement en lui offrant à boire et à manger. La nuit suivante s'avéra cauchemardesque pour le pauvre Joseph qui fut pris de fortes douleurs au ventre.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Trois jours durant, Joseph fut contraint de garder le lit, incapable de tenir sur ses deux pieds. Quand son médecin se présenta, il diagnostiqua sans mal une tentative d'empoisonnement, un crime très en vogue à l'époque. Il lui fallut une bonne semaine pour se rétablir. Une fois remis, le brave ouvrier aurait fort bien pu s'empresser de déposer plainte à la gendarmerie. Sauf que, en agissant ainsi, il risquait de faire une croix sur sa créance. Joseph choisit donc de ne rien dire afin de revenir de plus belle à la charge auprès de la vilaine Madeleine, laquelle ne fut guère rebutée par l'insuccès de son premier essai de l'empoisonner. Excitée par la convoitise du magot de Joseph, elle se décida cette fois à l'assassiner, non sans voler au préalable le pognon avant de faire disparaître sa dépouille. Un projet préparé 13 jours durant. Le 10 juin 1884, comprenant que Joseph rechignait à se présenter au cabaret, Madeleine eut l'idée de solliciter l'aide d'un certain Bidard. Et selon le plan ourdi par la maquerelle du village de Lannes, le Basque devait se rendre au domicile du vieux Larras afin de lui demander un petit service. Bidard, recherchant soi-disant un guide connaissant comme sa poche les routes du royaume d'Espagne, devait accompagner deux dames qui se disaient désireuses de faire un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'idée consistait donc à mettre le marché en main à Joseph. Ah, la belle histoire! Sachant la perversité de sa voisine, Bidard eut un mauvais pressentiment et il se garda bien d'honorer la mission. Deuxième échec pour Madeleine, qui ne songea pas un instant à lâcher prise. Elle revint à la charge le lendemain, mais Bidard ne bougea pas.
Affaire classée, un podcast ici Béarn Bigorre.
Peu importe, le 22 juin, la tenancière de cabaret change son fusil d'épaule. Elle recrute cette fois deux autres acolytes, Thérèse et Jeanne-Marie, qui iront frapper séance tenante à la porte du vieux Larras afin de lui demander de l'aide. Prétextant se rendre demain à Raqqa, les deux dames ont pour mission de convaincre le futur pigeon, de leur montrer la route. Moyennant finance, évidemment. Flairant l'entourloupe, la race refuse. Il profite de cette visite inattendue pour leur demander de passer le mot à Madeleine. Qu'elle se dépêche d'éteindre sa dette, sans quoi il n'hésitera pas à la traduire en justice au tribunal d'Oloron. Ne voyant rien venir, l'ouvrier espagnol se présente le lendemain dès 7h chez la Madeleine, laquelle l'envoie promener au motif qu'elle dort et qu'il vaudrait mieux qu'il revienne à 16h. Assurée que Jo Larras se pointera ce soir, la tenancière de cabaret lui prépare cette fois un comité d'accueil plutôt musclé. Elle sollicite une nouvelle fois ses deux complices, Thérèse et Jeanne-Marie, afin qu'elle lui prête main forte. Et le plan fonctionnera à merveille. Tout commence vers 15h30. La fille aînée de Madeleine, postée en sentinelle sur le chemin, court à l'auberge afin de prévenir les trois mégères de l'arrivée imminente du vieil homme. Quelques instants plus tard, Larras frappe à la porte de l'auberge. L'endroit a l'air désert. Il entre. À peine franchit-il le seuil que Madeleine se rue sur lui afin de le jeter au sol, tandis que Jeanne-Marie claque la porte et ferme le loquet intérieur. Les deux dames empoignent violemment Joseph, le tirant dans une chambre de la maison. Mais vous l'avez compris, le pire est à venir.
Affaire classée avec Thierry Sagardoito.
Thérèse, la troisième comparse, les rejoint. Elle s'empare des jambes de Joseph tandis que Jeanne-Marie lui maintient les bras. Madeleine exulte. Elle peut enfin faire la peau de son créancier et pour cela, elle l'étrangle de toutes ses forces avant de s'emparer d'une corde qu'elle a préparée pour l'occasion. Quelques minutes plus tard, le vieux Joseph pousse son dernier souffle. L'horrible Madeleine va enfin pouvoir s'emparer de la fameuse ceinture qui recèle les économies du malheureux. Le fameux magot caché n'était donc pas une légende. La tenancière sans scrupule arrache les liasses de billets. Elle en distribue quelques-uns à ses deux complices. 35 francs pour Thérèse, 25 francs pour Jeanne-Marie et le reste pour Madeleine. Leur bonheur sera pourtant de courte durée car et elle ne l'avait pas prévu. Il y avait un témoin dehors et c'est très gênant. Un domestique trentenaire a scruté le manège depuis la maison voisine. Il a vu l'arrivée du vieux Larras, il a surtout entendu ses cris et, ne le voyant pas reparaître, il a décidé d'aller jeter un œil dans l'auberge de l'horreur. Madeleine l'accueille, pas gênée pour deux sous. Aucune émotion ne traverse son visage. Marc jette un rapide coup d'œil, sans résultat. Il quitte les lieux, puis fait un rapide tour de maison, quand soudain, il aperçoit par une fenêtre le corps du malheureux gisant au sol d'une chambre du rez-de-chaussée. Le jeune domestique fait part de la macabre découverte à sa maîtresse, laquelle s'empresse d'alerter monsieur le maire. Le soir même, les gendarmes rappliquent à l'auberge de l'âne, suivi du juge de paix et du procureur. La perquisition commence. Elle durera toute la nuit.
Affaire classée, un podcast ici Bern-Bigorre.
Après de longues recherches, on finit par retrouver le cadavre du vieil homme. Il a été enveloppé dans un sac de toile, dissimulé entre le matelas et la paillasse d'un lit où dormait, détail macabre, le plus jeune fils de la maîtresse des lieux. Surprise en quasi flagrant délit, croyez-vous que les trois femmes avoueraient leur forfait? Même pas! Elles commencent par nier effrontément l'assassinat de leur proie, avant de se rejeter mutuellement les responsabilités les unes sur les autres. Les gendarmes n'auront pourtant guère de mal pour les confondre. Les trois mégères n'ont même pas eu le temps de dépenser l'argent qu'elles ont volé et qui traîne dans leur poche. La fouille des lieux livrera un autre indice. L'arsenic utilisé lors de la tentative d'empoisonnement du vieux Jo repose dans une boîte en métal. Détail accablant. Embarrassé. et tous, comme en Soule, l'arrestation des trois mégères criminelles sème l'émoi. On savait certes que Madeleine traînait une sale réputation de mère maquerel, mais de là à assassiner de sang-froid un vieil homme sans défense parce qu'il a eu le tort de réclamer le remboursement d'un prêt, somme toute modeste, il y a un pas. Voilà 10 ans que Joseph habitait la France. Le décès de son épouse n'a sans doute rien arrangé à son tempérament radin. N'ayant plus de contact avec ses 3 enfants, il tuait donc le temps dans les troquets du coin, parlant sans doute beaucoup trop de ses économies planquées dans sa ceinture. Moralité, ton secret est ton sang, et si tu le partages, tu meurs. Le procès s'ouvre à Pau, devant la cour d'assises des Basses-Pyrénées, en décembre 1884. Verdict, Madeleine finira ses jours en prison, au bagne. Ses 2 comparses purgeront, elles, 20 ans au cachot.
Affaires classées. Un podcast ici.
3 mégères dans le box. Nous étions en 1884 sur les hauteurs de Soule et aux confins avec la vallée du Barétous. Je vous propose dans un prochain épisode d'aller dans la cour de l'hôpital de Bayonne un après-midi de mars 1980. Soudainement, en milieu d'après-midi vers 16h, une voiture explose. C'est la voiture du sous-préfet. Pourquoi cette explosion et par qui? Réponse dans un prochain numéro intitulé « Cheval de Troie ». À bientôt.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Complètement gaga.
De vos parler d'ici.
Bonjour Olivier, vous nous racontez une expérience professionnelle aujourd'hui.
Oui, linguistico-professionnelle. Méblet. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune kiné qui s'est installée à Saint-Thé, toute fraîche diplômée et persuadée que chez nous, tout le monde parlait comme dans les manuels de l'école de kiné. Le travail, pas de souci, elle en a d'abondes comme tous les kinés. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était une aide pour les séances de traduction simultanée en gaga. Premier cas, un patient vient pour une rééducation à une prothèse de hanche. Il s'assied, soupire et déclare « Mon problème principal, c'est que j'arrive plus à m'acacasser. » « À vous quoi ?» qu'elle lui rebique, perplexe. « Ben, à mettre un cacasson, pardi. » Et là, notre kiné reste planté, croyant qu'il parlait d'un nouveau mouvement de yoga. Alors qu'en fait, bien sûr, il voulait juste s'accroupir. Deuxième séance de la matinée, deuxième quiproquo. Une patiente entre en se tenant le dos et lui dit « Ma sciatique, elle m'a fait kiné !» La jeune praticienne la regarde, ébahie. Ah, vous vous êtes découvert une vocation? Mais la patiente ne voulait pas dire kiné au sens de kinésithérapeute, mais bien kiné, Q-U-I-N-E-R, qui veut dire gémir, pleurer, couiner. La jeune femme s'imaginait qu'à peine arrivée, la patiente voulait lui faire de la concurrence. Troisième épisode, un monsieur arrive, pas très en forme, et déclare, j'ai du mal à me concentrer sur les exercices, j'ai le bas beau depuis quelques jours. Et la kiné d'orbiquer, mais si vous avez le bas du corps qui est beau, c'est plutôt positif, non? Mais non, kiné, ma blette, avoir le bas beau, c'est ne pas avoir le moral. Et pour finir, la palme de la consultation la plus confuse, une dame entre et lui dit « J'ai eu une consulte ». 5 minutes d'incompréhension plus tard, la jeune kiné découvre que « consulte », ici, ça veut dire « ordonnance ». La tatin, elle est allée la voir, la jeune kiné. Elle m'a dit qu'elle avait bien progressé, parce que après 2 mois à Saint-Thé, la kiné lui a dit « Allez, on s'acacasse doucement, tâchez moyen d'y aller doucement pour pas kiné ». Moi, je suis été la voir, la kiné, pour lui remettre le diplôme du Goya lauréat.
Ici.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Paris Île-de-France.
Et le cocktail américain, c'est quoi?
C'est un cocktail grillé avec une sauce américaine, tomate, échalote, une pointe de cognac, du vin blanc. C'est un peu relevé.
Un bécarin.
Pâté, jambon, c'est une oreillette, gruyère, cantal, rosbif, jambon de pays.
Eh ben tout ça, ça va aller dans la blanquette.
Bon appétit.
3h du matin à Rungis, brasserie, restaurant La Loyau. Ce n'est pas le réveil qui sonne, mais les cloches d'un troupeau de salers, vache emblématique du Cantal, et l'ami du petit déjeuner, Michel Soulinque, vous accueille dans sa brasserie. Pas le genre à vous servir de la ricorée.
Alors à la carte de La Loyau, en travaillant la côte de bœuf de Salers, les entrecôtes de Salers, on peut aujourd'hui également manger des côtes de porc du Cantal, la saucisse d'Auvergne à Ligaud, comme vous le voyez, et des tripes à la Normande.
Ah, il y a un produit de Normandie, le reste c'est votre région. Hein.
Alors, on n'est pas chauvin, mais on aime mettre en avant les produits de notre région.
Michel Soulinque, un personnage haut en couleur, originaire du Cantal, issu de la diaspora de la Grande Auvergne, monté à Paris pour travailler dur. Les fameux bougnats ont disparu depuis bien longtemps, idem le ventre de Paris et les vieilles halles, transférés il y a 56 ans à Rungis. Archives 1969.
C'était le déménagement du siècle. En route pour Rungis, au revoir Paris. Ton cœur avait du mal à respirer, on t'en a greffé un tout neuf, immense, moderne, fonctionnel. Il te faudra bientôt alimenter 12 millions d'estomacs. Ici, rien à voir avec les halles de Baltard. Chaque négociant dispose d'un carreau à trois échelons. Les dépôts en sous-sol reliés par monte-charge au carreau et à l'étage, un bureau. Du vrai moderne tout cela.
C'est désormais une deuxième, voire une troisième génération de mandataires, grossistes, caristes, emballeurs, vendeurs, agents commerciaux, livreurs, acheteurs qui font vivre le marché international de Rungis. De même pour les patrons de brasserie.
Moi je suis là depuis 32 ans, initialement dans un établissement qui s'appelle le Saint-Hubert dans le pavillon de la volaille et du gibier. et j'ai repris la Loyaux il y a en 2009.
Une amplitude horaire large de 3h du matin à 16h, du lundi au vendredi, 15 employés en cuisine et au service, avec une pointe d'activité entre 5 et 7h du matin et le midi comme toutes les brasseries traditionnelles. La Loyaux, un établissement de qualité comme les meilleurs morceaux du bœuf.
Alors la Loyaux, bien sûr, comme ça s'entend, c'est un restaurant de spécialité de viande. On travaille un ou deux plats traditionnels et cuisinés tous les jours, une joue de bœuf, une joue de porc, un pot-au-feu, suivant les saisons. Comme nos ancêtres, les vieux Auvergnats, on aime mettre en avant les produits de notre région, en commençant par le fromage, la charcuterie ou même des viandes. Et cette activité aujourd'hui des restaurants du marché s'est développée sur l'activité du midi, où on travaille la plupart avec une clientèle extérieure du marché. Cette clientèle extérieure du marché a la possibilité de rentrer avec des tickets offerts par les restaurants et ils ont la possibilité effectivement de manger les produits frais du marché.
La Loyaux, lieu d'échange et de convivialité où tout le monde se mélange à égalité, au comptoir et à table, on croise de nombreux travailleurs du matin et il n'est pas rare aussi de boire un coup avec quelques fêtards connus ou inconnus. Bref, ouvert à tous, notez bien l'adresse, 3 rue de Salers, ça ne s'invente pas, La Loyaux de Michel Soulenc, marché international de Rungis, Chevilly-la-Rue.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts.
Bonjour.
Alors, on est où ici, Philippe?
On est sur mon exploitation, dans la miellerie.
Ici, à Boulternère.
À Boulternère.
Et Philippe, vous avez donc une miellerie, vous avez aussi des vergers.
Beaucoup de produits différents, on fait des pommes, des amandes, des abricots, du jus de pomme, du nectar.
Il me semble que j'ai vu aussi des pieds d'avocat.
C'est pas en production.
C'est un essai.
C'est un essai, on verra si la météo devient un peu plus clémente dans les années à venir.
Et là, vous avez donc la mise en pot ici, dans votre miellerie de Boulternère.
Je peux même me faire goûter, si vous
voulez. Je veux bien, oui.
Je suis déjà très fier de mes abeilles, surtout.
Et alors, quel est le miel que vous préférez, vous?
Moi, je les aime tous. Après, je ne sais pas si vous connaissez peut-être des miels un peu particuliers, comme la bruyère calune.
Eh bien, allons-y. Très subtil, hein, comme parfum.
Oui, c'est un miel qui est très particulier, peu récolté parce qu'il est très difficile à extraire et par contre très prisé dans l'Europe du Nord. Celui-là, il vient de la réserve naturelle de Pie.
Donc ça sent très très bon le miel dans la miellerie. On va aller peut-être du côté des pommes. Donc là, Philippe, on se dirige vers votre verger. À notre droite, tous les pommiers.
Oui, voilà, différentes variétés. Gold Rush, un petit peu de Fuji aussi. En fait, si vous voulez, on a mis des pommes qui ne pouvaient pas aller à la montagne. Ici, on a gardé des pommes qui se récoltent tard, comme la Fuji ou la Gold Rush. Et après, celle qu'on a vue la première, c'est une primeur, une gala. Qui elle aussi, elle est mieux ici qu'à Sahor.
Oh là, monsieur, vous avez fait provision, là?
Ah oui, monsieur Torrent était reconnu dans le coin.
Alors, combien vous en avez acheté de pommes? Combien de kilos?
Oh, j'en sais rien, il y en a 3, 4, 5 caisses.
Ah ouais, quand même, c'est pour
plus,
tout l'hiver.
Plus les noix.
Bonne dégustation.
Merci.
Ça sent bon, la pomme. Et alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Philippe, me montrer la variété endémique du Roussillon, la coquette?
Voilà, ça c'est coquette.
Voilà, sa particularité, c'est qu'elle est un petit peu rosée.
Voilà, un petit peu rosée. C'est une variété voilà, qui est présente avant que la Golden arrive. Donc c'est dans les années 50. Et elle a été au fur et à mesure supplantée par les Rennais du Canada, là-haut, les Golden. Parce que c'est un arbre qui est très alternant. C'est-à-dire qu'il produit qu'une année sur deux. On n'est plus très nombreux à avoir de la coquette.
Donc c'est une chance de pouvoir la goûter.
Oui, vous voulez goûter?
Allez.
Je vais goûter.
Allez.
Elle est trop trop bonne. Je vois qu'il y a aussi des noix. Ça, c'est pas votre production, c'est un copain à vous?
Voilà, c'est Monsieur Retch à Boulternère. Pareil, pour faire face un peu à la disparition des pêchers, tout le monde s'est diversifié, à mettre des olives, des grenades, des noix. On a cherché des cultures alternatives.
Et dites-moi, Philippe, vous avez les pommes et vous avez le jus de pomme.
On a un petit atelier, on se fait nous-mêmes le jus de pomme, voilà.
Et ça, c'est pour ça que vous avez plein de clients aussi, parce que vous avez plein de bons produits.
Ça fait 43 ans qu'on fait du jus de pomme.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Champagne-Ardenne.
Victor Hugo est venu à Reims à plusieurs reprises, et notamment lors du sacre de Charles X, le 29 mai 1825. Charles X qui a succédé à son frère, Louis XVIII, quelques mois plus tôt, en octobre 1824. Depuis 10 ans, en fait, les Bourbons ont retrouvé le trône après la chute de Napoléon et l'entrée dans la période dite de la Restauration. Louis XVIII n'avait pas souhaité renouer avec la tradition du sacre. La Révolution restait présente dans les esprits, puis sa santé fragile rendait une longue cérémonie difficile pour lui. Charles X, lui, choisit l'option inverse. Le souverain entend affirmer la légitimité monarchique par un retour aux rites ancestraux. La cathédrale Notre-Dame de Reims accueille la cérémonie et c'est une véritable parade en ville. Un cortège royal avec bannières, soldats, les dignitaires du royaume et les membres de la famille royale qui composent donc cette procession spectaculaire. Parmi les invités figure un jeune écrivain de 23 ans, Victor Hugo. Il est invité officiellement à cet événement car il ne cache pas son penchant royaliste. Mais je n'ai pas dupe, hein. S'il est convié au sacre royal, c'est pour en écrire tout le bien qu'il en pense. Le roi a demandé si j'étais ici. Je suis effrayé de ce qu'ils attendent de moi, précise-t-il à sa femme Adèle dans une lettre. Il en profite tout de même pour faire un peu de tourisme. Et comme tout écrivain qui se respecte, il observe et prend des notes. Il passe notamment rue de Venise et tombe sur une jeune femme dans une cour de la rue Folpen. C'est une gitane qui danse. Il poursuit sa balade dans le quartier Saint-Remy et s'arrête devant la basilique pour en faire la découverte. Il croise un petit homme d'une trentaine d'années. Il est bossu. C'est en fait le sonneur de cloche de la basilique. Tout cela inspire Victor Hugo pour l'écriture des personnages principaux de son roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Le bossu sera Quasimodo et la gitane devient bohémienne sous le nom d'Esmeralda. Les héros de Notre-Dame de Paris, imaginés à Reims, c'est l'un des trésors de Champagne-Ardenne.
Ici. Qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux Viens, mais ne viens pas quand je sais.